Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Basimango.
Libération par l'armée à Bounia de tous les 40 déplacés du site de Kigonze qui avaient été arrêtés il y a 2 mois car soupçonnés de connivence avec la CRP. Le dernier groupe a été relâché un mardi, ce qui contribue à apaiser un peu le climat sur place. Torture et détention arbitraire signalée dans les territoires de Dékessé au Kassai sur une présumée affaire de viol la semaine dernière. Le réseau de protection des défenseurs des droits humains sur place dénonce et accuse l'administrateur du territoire qui nie. La partie consacrée à l'invité un peu spécial aujourd'hui, ils sont deux. Professeur Godin Poy, député national et spécialiste en fiscalité. Également avec nous, Lems Kamoigna, expert en économie et finance. Avec eux, nous nous penchons sur les dernières mesures de la Banque centrale du Congo pour stabiliser la monnaie locale. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Tous les déplacés internes du site de Kigonze à Bounia, arrêtés lors d'un bouclage des FARDC en novembre dernier, sont désormais libres. Le dernier groupe de 20 personnes soupçonnées de connivence avec le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, CRP, a recouvré la liberté mardi selon le comité de gestion du site. Plusieurs déplacés qui passaient la nuit hors du camp, craignant des arrestations, ont depuis regagné leurs abris. Isaac Kremo nous explique les faits.
Environ 40 déplacés d'ici de Kigonze, situé au quartier Muzipela Bounia, étaient à détention depuis le bouclage mené en novembre 2025 par les forces de l'ordre. Après près de 2 mois d'enquête portant sur des soupçons de complicité avec le groupe armé CRP, ces personnes ont été libérées faute de preuves. Un premier groupe avait déjà été relâché pendant les festivités de fin d'année, tandis que le dernier a retrouvé la liberté mardi. Selon le comité de gestion d'ici de Kigonze, cette libération a contribué à restaurer la confiance entre les déplacés, estimée environ 17 000 personnes et les forces de l'ordre. Toujours d'après cette source, près de la moitié des déplacés, principalement des jeunes et des hommes, passaient la nuit en dehors du site ou louaient des maisons par crainte d'arrestation. À ces jours, environ 80% d'entre eux auraient gagné les camps. Toutefois, certains hésitent encore dans l'attente des garanties sur les caractères civils du site qui ne devraient pas faire l'objet d'un bouclage et d'arrestations répétées. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capitale.
Toujours en Ituri, plus de 20 000 habitants d'Irumu Centre, environ 55 km au sud-ouest de Bounia, n'ont plus accès à l'eau potable depuis près de 3 semaines. Cela fait suite à une panne survenue à l'unique centre du captage d'eau de la régie des eaux dans la zone. Faute d'alternative, la majorité de la population consomme désormais l'eau de rivière, souvent insalubre. D'autres parcourent une dizaine de kilomètres jusqu'à Mangiva pour s'approvisionner en eau potable. Ces informations collectées par Isaac Remo sont rendues ici par Benjamin Moudoumbi.
À Irumu Centre, l'eau potable est devenue une denrée rare. La population a vécu pendant près de 10 ans sans puits d'eau aménagés. Pour soulager les souffrances des populations retournées après la guerre, le gouvernement avait financé la réhabilitation d'un centre de captage d'eau de la régie des eaux. Cependant, depuis 3 semaines, plusieurs équipements essentiels, notamment les groupes électrogènes et la pompe, sont tombés en panne. Les systèmes de captage, très vétustes, est régulièrement envahi par la boue, ce qui bloque le fonctionnement des machines. Face à cette pénurie, les habitants se rabattent sur les eaux suyées des rivières Olu et Ndoya, les exposant à de nombreuses maladies d'origine hydrique. Alerté, le directeur provincial de la régie des eaux, accompagné d'une équipe du comité international de la Croix-Rouge, s'est rendu sur place afin de mettre fin aux souffrances de la population. Il est notamment question de la construction des nouveaux centres de captage pour améliorer durablement la desserte en eau potable. Blaise Nkuta, directeur provincial de la régie des eaux.
Pour l'instant, nous sommes en train d'intervenir à la panne que le centre a connue, en attendant les gros travaux que nous allons faire ensemble avec le CICR.
Par ailleurs, plusieurs autres entités de la province de l'Ituri font face à des difficultés similaires d'accès à l'eau potable, car les eaux de distribution de la régie des eaux et de Ngongo peinent à répondre aux besoins croissants de la population.
Difficulté au quotidien aussi pour les familles de déplacés à Beni, dans le Nord Kivu. Elles vivent dans des conditions sanitaires alarmantes, au camp installé à l'Institut Alpha, dans la commune de Moulekira, par exemple. Au moins 40 ménages ayant fui les violences armées en Ituri peinent à accéder à l'eau potable et aux latrines. Les 12 latrines mises à leur disposition par une organisation humanitaire internationale non vidées depuis plusieurs mois sont saturées, ce qui expose les déplacés aux risques sanitaires et cela complique davantage leurs conditions de vie déjà difficiles. Merci. Le papy Moukeba s'est rendu sur place. Son reportage.
Ces familles ont fui il y a près d'un an les localités de Tomaber, Idou, Ndalia, Mambelenga et Komanda à Nitouri pour échapper aux attaques armées. Aujourd'hui, elles vivent dans des abris de fortune faits de planches au camp de l'Institut Alpha. Ici, le quotidien est marqué par la précarité. Trouver de quoi manger reste un défi pour la plupart des ménages. À cela s'ajoutent des conditions d'hygiène difficiles qui inquiètent les occupants du site et les exposent à des maladies. Ariette Polenge, vice-présidente du camp, décrit une situation devenue insoutenable.
Les latrines que nous avons ici sont déjà pleines, mais nous sommes obligés de les utiliser dans cet état. Nous souffrons beaucoup, nous ne savons plus quoi faire et nous sommes très exposés aux microbes. Même pour la nourriture, c'est difficile. Nous demandons de l'aide.
Malgré ces difficultés, ces familles déplacées continuent d'espérer un retour dans leur milieu d'origine et aspirent à reconstruire leur avenir loin de l'insécurité. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Le réseau de protection des défenseurs de droits humains basé dans la province du Kasaï dénonce des cas de torture et des détentions arbitraires dans le territoire de Dékessé. D'après cette organisation, l'administrateur de ce territoire serait impliqué dans les cas qui ont eu lieu la semaine dernière dans une affaire de présumé viol. Ce réseau s'inquiète de l'état de santé des victimes de ces tortures. Elles auraient besoin d'une prise en charge médicale appropriée. Qu'en est-il à Skanzik Bataero?
À Dékessé, Jonas Mboyo affirme avoir été victime de tortures et de détentions arbitraires, lui et son fils, dans le cadre d'une affaire de présumé viol d'une jeune fille dont il nie toute responsabilité. Selon ses témoignages, l'administrateur du territoire de Dékessé, à la tête d'un groupe de personnes, serait arrivé à bord d'une Jeep et l'aurait tabassé violemment à la résidence de son fils sous prétexte de rechercher les présumés violeurs d'une fille de Dékessé. Jonas Mboyo.
Je venais de Nyassa Inga dimanche le 4. En arrivant chez mon fils, j'ai vu le véhicule de l'athée Patrick Bassa. Lorsqu'il est entré dans la parcelle de mon fils, directement il m'a giflé. Il a donné des ordres à ses hommes de me tabasser. Ils m'ont tabassé violemment et m'ont amené en prison. Et en prison, il a encore donné des ordres. On m'a tabassé jusqu'à me blesser.
Contacté Patrick Bassa, administrateur du territoire des Dékessé, déclare ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il affirme en En revanche, avoir été victime d'une agression de la part de la famille du présumé violeur à laquelle appartient Jonas Mboyo. Pour les réseaux de protection des défenseurs des droits humains, les autorités judiciaires de la province du Kasaï doivent se saisir rapidement de cette affaire afin que justice soit rendue.
Et dans la province du Kasaï central, la nouvelle société civile du territoire de Demba dénonce la multiplicité de barrières clandestines sur l'axe Diofa. D'après cette structure, ces barrières sont tenues par des hommes en uniforme ainsi que par des jeunes chargés de travaux d'assainissement sur cette route. Ils exigent entre 1000 et 2000 francs congolais aux transporteurs à vélo communément appelés Bayanda. André Katendinkalamouloumé nous en dit plus.
Selon la nouvelle société civile congolaise, ces points de contrôle sont notamment installés à Chibata, Benakamwanga ainsi qu'au-delà de la rivière Luboudi en violation des normes en vigueur. Son coordonnateur, Marcel Massanka, appelle les autorités provinciales à intervenir urgemment afin de faire lever ces barrières et permettre la libre circulation de personnes et de biens.
Nous demandons au gouvernement provincial ainsi que tous les répondants, toutes les autorités puissent s'engager afin de déloger ces gens sur cette voie afin de soulager les passagers du côté Diofa.
La situation ne concerne pas uniquement les territoires de Demba. Des cas similaires sont également signalés dans les territoires de Dimbelenge, Luisa, Kazumba et Dibaya. Nous avons tenté de rencontrer le ministre provincial de l'Intérieur pour savoir ce que le gouvernement provincial pense de la situation. Mais nos efforts se sont avérés vains. Kananga, André Katendengalamoulme, Radio Okapi.
Dans le Haut-Uele, le coordonnateur des L'Organisation des défenses de droits de l'homme du territoire de Niangara exprime son inquiétude face à la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays. Dominique Bombe-Wabombe juge la situation particulièrement préoccupante. Entre le 29 décembre dernier et vendredi dernier, le 9 janvier, deux personnes ont été tuées et leurs corps retrouvés en périphérie de la cité. Le cas le plus récent concerne un enseignant enlevé dont le corps sans vie a été découvert 48 heures plus tard. Face à cette montée de violence, Dominique Bombe-Wabombe lance un appel nouvelle pression aux autorités provinciales et nationales pour un renforcement urgent des mesures sécuritaires en vue de protéger la population. Son appel au micro de Pepe Lissungi de la radio communautaire Beko FM.
Je sollicite auprès du gouvernement central d'avoir des yeux regardants sur Niangara et même au gouvernement provincial d'avoir des yeux regardants sur Niangara parce que avec le phénomène Bororo, parmi il y a des multinationalités et plusieurs d'autres personnes qu'on a parlé de Selek, de rebelles Selek qui se sont infiltrés et même des réfugiés soudanais qui sont ici. Depuis le mois de décembre jusqu'à à ce jour, la population de Niangara vivent dans la psychose. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la population d'être vigilant. Moindre geste, il faut passer vite la communication pour qu'on se prenne en charge et qu'on alerte les autorités pour qu'on mette la main sur ceux qui sèment des terreurs et des tirs réparés avec des actes de barbarie. Ça fait mal parce que la population de Niangara maintenant n'a pas vraiment le courage d'entrer dans la forêt.
Nous sommes dans la province du Maniema où des voix s'élèvent pour demander l'implication des autorités compétentes afin de régler la problématique de la gestion des Wazalindo à Kailo ainsi que dans l'ensemble de la province. Cet appel intervient plus de 10 jours après des accrochages entre Wazalindo et des forces de l'ordre ayant conduit à des exactions. Depuis, la population du groupement de Kasinga-Numbi en territoire de Kailo vit dans la misère. Edimo Kisumaili, notable acteur politique social de Kailo, explique qu'elle lance aussi un SOS aux autorités. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Il y a de cela 10 jours, il y a eu tentative d'affrontement entre les FARDC et les groupes Wazalindo. Cette situation a poussé la population à fuir dans la forêt et se retrouve sans abri, manque de produits de première nécessité et bref, c'est presque un désastre humanitaire qui les ronge. Nous nous posons la question, quel est l'intérêt pour nos frères Wazalindo de s'affronter avec les FARDC? Voilà pourquoi nous présentons notre plaidoyer à la haute hiérarchie, à l'occurrence à VPM de l'intérieur, maître Chagme Chabani, au docteur Mouadian Vita, VPM de la Défense, au ministre de la Santé, ainsi que celui des Affaires humanitaires, de s'y pencher sur la question. Sinon, ce désastre humanitaire risquerait d'embrasser toute la province. C'est l'occasion aussi pour nous ici d'inviter les autorités, les originaires de la province du Maniema, convoyer des cendres à Kindu pour aller sensibiliser les Wazalindo, de conscientiser ces derniers, de les encadrer, en fait de ramener la paix. La paix n'est pas seulement l'œuvre du président de la République, et la paix, c'est une affaire de tous.
L'accord de paix de Washington est en espoir pour le peuple congolais, estime le professeur Jean Bosco Bala, vice-recteur de l'Université pour la paix en Afrique, UPA. Au cours d'une table ronde organisée hier mercredi à Kinshasa par la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix, l'enseignant des questions approfondies de défense, sécurité et droits humains appelle la population congolaise à faire un bloc de pression pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Précision avec John Chibobwa.
Appropriation du processus de paix en RDC, c'est le thème développé au cours de cette table ronde. Pour Aziza Mounana, ministre honoraire des Affaires sociales, la paix n'est pas seulement l'absence des guerres.
Mesdames et messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Elle est un état d'esprit. Elle commence au niveau individuel, dans nos cœurs et s'étend à nos communautés, à notre nation et à l'échelle mondiale. Chaque point de vue compte et contribue à enrichir notre réflexion collective.
Le professeur Bosco Bahala appelle le peuple congolais à se mobiliser autour de cet accord.
L'accord de Washington vient après toute une série d'accords et nous espérons que ces accords sont les derniers et les accords ultimes parce que les précédents processus, ce sont des accords partiels qui n'allaient pas jusqu'au bout du vrai problème. Cet accord a l'avantage d'abord d'avoir mis en avant un des acteurs majeurs de toutes ces guerres que nous avions connues, c'est les États-Unis. Nous devons nous approprier cet accord pour que les avantages que nous pouvons avoir au niveau économique, au niveau de l'intégration régionale, soient de vrais avantages.
Un plaidoyer sera organisé au niveau régional et international pour parler du véritable narratif et des conséquences de la guerre en RDC. Annonce faite par le président des FOSEDEP, le professeur Pax André Kito Massimango.
En plus bref, le ministère de l'Emploi et du Travail annonce que le vendredi 16 janvier et le samedi 17 janvier 2026 seront des jours fériés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces dates marquent la commémoration des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Lumumba. Mais étant donné que le 17 janvier tombe un samedi, ce jour férié est exceptionnellement reporté au lundi 19 janvier 2025. En conclusion, le vendredi 16 janvier et le lundi 19 janvier seront des jours de journée chômée et payée à travers le pays.
Actualité internationale.
Élections législatives et présidentielles en Ouganda aujourd'hui, mais hier déjà, le pays était plongé dans un blackout d'Internet. Les autorités justifient cette coupure par la lutte contre la désinformation et la fraude électorale, ainsi que les appels à la violence, des arguments fermement rejetés par l'opposition. D'après AfricaNews.net, le scrutin s'annonce comme une bataille générationnelle entre le président sortant, Yoweri Museveni, et son principal adversaire, la popstar devenue homme politique, Bob Wine.
L'invité.
La Banque centrale du Congo vient de faire un certain nombre d'annonces dans le cadre de sa politique visant à stabiliser le franc congolais. Dans son communiqué rendu public le 10 janvier, elle annonce avoir injecté dans les banques commerciales 50 millions de dollars américains le 8 janvier. Après les tensions post-festives, une nouvelle intervention a été annoncée le 12 janvier. Cette institution monétaire a rassuré sur le niveau actuel de ses réserves internationales et a précisé aussi avoir baissé son taux directeur qui passe de 17 à 15%. Cette politique de la Banque centrale du Congo pour stabiliser le franc congolais était au centre du débat hier mercredi soir dans l'émission Dialogue entre Congolais. Les différents intervenants à cette émission ont chacun évalué cette stratégie. On les écoute au micro de Guimaté.
Bonjour, Godin Poy, vous êtes député national et ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, spécialiste en fiscalité, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Institut supérieur des commerces. Quelle évaluation vous faites de cette politique de la Banque centrale du Congo visant à stabiliser le franc congolais près de 5 mois après sa mise en application?
Merci Guy. Dans tous les pays du monde, on ne peut pas asseoir l'appréciation d'une monnaie sur les réserves d'échange. Les risques, lorsqu'on est en train de recourir aux réserves d'échange pour faire apprécier une monnaie, c'est qu'à un certain moment, ces réserves d'échange vont s'épuiser. Et du coup, avec tout ce qu'il y a comme tension géopolitique de par le monde, le pays se trouvera vraiment exposé à des risques énormes. Je ne suis pas le seul à le dire. Si vous avez suivi le communiqué du Fonds monétaire international daté du 19 décembre 2025, le Fonds monétaire international, dans le style qui est le sien, dit ceci. Il était content de constater que nos réserves de change augmentaient, mais il était préoccupé par le fait que cette augmentation n'avait pas encore atteint le seuil voulu pour garantir la résilience économique.
Vous dites qu'on ne peut pas asseoir une monnaie sur les réserves d'échange. Dans un contexte où les francs congolais ne faisaient que se déprécier tous les jours, est-ce que la Banque centrale avait d'autres options que celle de recourir à ces réserves d'échange?
Il fallait laisser la monnaie flotter et travailler sur l'économie et sur les finances publiques en mobilisant davantage de recettes pour nous éviter des déficits qui caractérisent notre économie depuis un certain temps. Donc ce sont les forces du marché. La monnaie, c'est le symbole de la richesse d'un État. Ce n'est pas pour la toute première fois qu'on fait cela. Monsieur Laurent Désiré Kabila, de raison mémoire, il avait fixé sa parité par ordonnance. Et nous connaissons la suite. Donc en politique publique, on dit que gouverner est hériter. Et avant d'entrer dans l'obscurité du futur, on doit se servir de la lumière du passé.
Et qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, le fait que les prix des biens et services n'ont pas suivi cette appréciation constatée du franc congolais face au dollar américain?
Parce que c'est artificiel. L'économie obéit à une loi nodale. C'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous brisez cette loi-là, lorsque vous ne la respectez pas, la réponse viendra du marché.
Merci. Lemsi Kamonya, vous êtes expert en économie et finances. Comment vous évaluez, n'est-ce pas, cette politique de la Banque centrale du Congo?
En principe, la Banque centrale qui met en œuvre la politique monétaire, elle doit comprendre que l'objectif de la politique monétaire, c'est d'assurer la stabilité de la monnaie, laquelle aussi va concourir à la stabilité des prix des biens et services sur les marchés. La politique monétaire ne vise pas à créer une appréciation de la monnaie. Même au point de vue théorique, ça ne marche pas. C'est vrai que nous pouvons concéder à la Banque centrale le fait que lorsque sa devise nationale bat de l'aile, un des outils que la Banque centrale peut utiliser, c'est de recourir aux aires d'échange et intervenir sur les marchés. Mais son intervention sur les marchés d'échange, ce n'est pas pour arriver à faire apprécier sa monnaie. C'est pour arriver à stabiliser, à garantir la stabilité de sa propre monnaie. Parce que si vous voulez apprécier la monnaie suite à votre intervention, cette appréciation ne peut être qu'artificielle, parce qu'elle n'est pas soutenue par une production intérieure qui permet de donner beaucoup de valeur à la monnaie.
C'est quoi vos propositions pour que l'on sorte de cette situation? C'est quoi la solution aujourd'hui?
Pour moi, solution d'abord, allons sur les taux d'échange. Le système actuel, c'est un système d'échange flottant. Il faut que la Banque centrale laisse les lois du marché nous aider à déterminer les taux d'équilibre. 230 ou 205 ou 285, ce n'est pas les taux d'équilibre et ça, la Banque centrale les connaît bien. Qu'elle laisse les forces du marché